sur Dieu. La première chose qui nous vient à l'esprit, quand, où est-ce que Dieu est présent dans ce passage-là? Même s'il n'est pas mentionné dans ces trois versets. Et qu'est-ce qu'on apprend sur lui?
Eh bien, qu'il a pris soin de Naomi.
Alors,
et Naomi et Ruth.
Oui, alors ça, c'est d'une manière générale, bien sûr.
Non,
mais dans ces trois versets-là, où est-ce qu'on peut voir il y a même un peu d'humour, je trouve. Parce que c'est la parole de Dieu, et il y a une expression qui m'a surpris. J'étais surpris de trouver cette expression dans ce passage-là. Est-ce que...
On se trouve par bonheur.
Par bonheur. Voilà, alors différentes traductions disent, il se trouvera par hasard.
Par grâce, moi, j'ai dit.
Et par grâce, oui, par... Donc ça veut dire la même chose. Et effectivement, c'est... Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu, finalement, sur ce passage-là, quand on voit où se retrouvent les personnages?
Ah oui, par bonheur.
Exactement. Qui conduit, qui dirige. On peut parler de la providence de Dieu dans sa direction, déjà ici. Dieu a conduit les gens. Ruth ne savait pas, hein, elle voulait déjà, on va parler d'elle après, mais Ruth, elle était volontaire pour aller travailler, pour subvenir aux ses besoins, à ceux de sa belle-mère. Et donc, sans savoir ce qu'elle va trouver, et le texte nous prépare quand même. Avant de parler de Ruth, le texte nous dit que Naomi avait un parent, un homme puissant riche de la famille d'Élimélec, qui se nommait Boaz, avant tout événement. Donc on est prévenu. Et au verset 3, bien, qu'est-ce qu'on apprend? Donc au verset 2, Ruth elle dit à sa belle-mère qu'elle va glaner des épis. Et au verset 3, on apprend que cette pièce de terre où elle va glaner,
ouais,
elle est de la famille
de
Boaz. Mmh. Le nom de Dieu n'est pas mentionné ici, mais quand même, il se trouva par bonheur, il se trouva par hasard, comme par hasard, que cette pièce de terre, elle appartenait à Boaz. Alors oui, Dieu conduit les événements, et on peut voir sa providence, premièrement, dans sa direction. Ça, c'est le premier point, la providence de Dieu dans sa direction. Alors, venons-en à Ruth. Alors, le glanage, qu'est-ce que c'est le glanage? Est-ce que vous êtes familier avec ça?
Oui, c'est comme travailler.
Oui.
La neige est ramassée.
Alors, c'est travailler, et c'est un travail précis qui se passe au moment des moissons.
Ouais.
Ramasser
ben, des épis, des...
À ramasser ce qui reste, voilà. Et... Alors, c'est dans le Lévitique, chapitre 23, verset 22, que certainement Ruth devait connaître, peut-être par l'intermédiaire de Naomi. Et je ne sais pas si je l'ai distribué, Lévitique 23, 22.
C'est celui-là.
Si tu veux nous le lire, Roberto. Si c'est... 23, 22 ?
Oui.
Oui.
Là-bas,
c'est... Ah, pardon, alors.
Quand vous ferez la moisson dans votre pays...
C'est ça.
Pardon. Quand vous ferez la moisson dans votre pays... Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Voilà, donc Ruth, elle va profiter de cette loi. Cette loi qui l'autorise à aller derrière les moissonneurs pour glaner ce qui reste. Alors, on peut vraiment voir les qualités de Ruth. Hein. Elle est travailleuse. Le glanage, c'est physique. Hein. C'est vraiment, pour une femme, c'est physique. Hein. C'est ramasser, se baisser, et puis c'est porter le poids. Alors, Ruth, elle est en train d'apprendre là sur Dieu. Imaginez Ruth, elle a l'autorisation d'aller... Alors, elle en parle à sa belle-mère. Elle sait qu'elle peut aller ramasser les restes. Et à votre avis, qu'est-ce que Ruth apprend sur Dieu en découvrant cette loi? Cette loi, elle a dû en entendre parler. Le texte ne dit pas qu'elle en a entendu parler, mais au moins, elle voulait aller glaner. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend encore sur Dieu dans ce passage-là? Dieu a conduit les événements, mais qu'est-ce que nous apprend cette loi sur le glanage, sur Dieu, déjà? Dieu pourvoit. Et il s'intéresse à qui, principalement, dans ce passage-là?
À Ruth
et aux pauvres. Aux pauvres.
Et à l'étranger.
Et à l'étranger.
Oui, parce que Ruth, elle est étrangère.
Voilà. Et le passage nous dit bien, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Et dans un autre passage, au chapitre 24, il est encore question du glanage. Et c'était, les restes étaient destinés aux veuves, aux orphelins, aux pauvres et aux étrangers. C'est encore plus précis. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu ?
Sa bonté aussi.
Sa bonté ! Alors, peut-être vous avez entendu des fois la remarque, oui, mais Dieu dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu guerrier qui tue. Et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Mais dans l'Ancien Testament, on voit la bonté de Dieu qui s'intéresse à tout le monde, à ceux qui sont en difficulté, juifs ou pas. Et on voit bien finalement la bonté de Dieu qui va rejaillir sur Ruth. Ruth, elle veut être bonne envers sa belle-mère. Et elle a déjà vu à l'œuvre la bonté de Dieu dans la vie de sa belle-mère. Et là encore, avec sachant qu'elle peut aller glaner les restes, elle va vivre la bonté de Dieu. Ruth, elle est à l'école de Dieu. À la base, elle ne connaît pas Dieu et elle va apprendre à le connaître par ses lois qu'elle va découvrir, qu'elle va appliquer. Alors, comment... Et c'est parce que Dieu est bon que Ruth, eh bien, la bonté de Dieu rejaillit sur Ruth. Comment ça se passait plus précisément le glanage ? Alors, il y avait les hommes et il y avait les femmes. Il y avait les moissonneurs et les servantes. Donc les moissonneurs, ils coupaient à la faucille les l'orge, les blés aussi. Et derrière les femmes, eh bien, elles faisaient les gerbes, elles attachaient, elles ramassaient ce que les hommes avaient coupé. Les hommes coupent, les femmes sont derrière pour ramasser. Et ce qui restait, donc, c'était pour les glaneurs. Bien sûr, il y avait des grains qui restaient. Alors, voilà, donc Ruth, elle n'a pas reculé devant ce travail, qui est un travail très physique. On voit encore une qualité chez Ruth aussi. Elle est travailleuse, elle est volontaire, elle est loyale, elle est courageuse. Et elle va même s'humilier, parce qu'il faut se baisser pour ramasser les graines. Et Dieu, eh bien, il voit tout ça. Alors c'est Dieu qui commence toujours, hein, qui fait toujours le premier pas. Et est-ce qu'on peut parler de mérite là ? Alors on ne mérite rien. Mais Dieu voit un cœur qui s'humilie, qui est volontaire, qui est courageux, qui est loyal. Et Dieu se révèle aux personnes qui sont sincères, même sans le connaître, et qui veulent le trouver. Là, donc, le glanage, comme tu as dit, ton prénom c'est
Gaëtan,
c'est un véritable travail. C'est pas de l'aumône, c'est un travail qui est physique et Ruth n'a pas reculé devant ce travail dans son malheur. Alors moi je trouvais ce verset 3, il se trouva par hasard, c'est la parole de Dieu qui parle comme ça, il se trouva par bonheur, il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Alors nous on sait bien sûr que c'est Dieu qui est derrière tout ça, mais un verset comme ça, ça peut aussi parler à un non-chrétien. Au fait, mais là, il y a des circonstances qui sont en train de se mettre ensemble. Est-ce que derrière une musique, il n'y a pas un chef d'orchestre derrière qui est en train de tout orchestrer ? Et ça peut effectivement parler. Ça peut parler aux non-chrétiens, aux non-croyants. On lit la suite ? On peut lire le verset 4 à 7.
Absolument.
On est encore dans la direction. Oui, si tu veux.
Oui. C'est 8, 2,
4 à 7. 2, 4 à 7.
Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Il lui répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Verset 5. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui cette jeune femme ?» Le serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison.
Merci. Voilà donc un autre intervenant qui arrive, il s'agit de Boaz. Donc Boaz qui arrive donc dans ce champ-là. Donc il arrive, c'est le patron, il arrive au champ des moissonneurs, et qu'est-ce qu'il fait? Il se salue par une formule de bénédiction. Et ils s'envoient mutuellement une formule de bénédiction, finalement. Aujourd'hui, on aimerait bien avoir ça hein, dans le milieu du travail. Il y aurait des meilleures conditions hein, si effectivement les employeurs étaient comme ça. Il y en a peut-être, hein, certains.
Oui, il y en a.
Oui. Et alors, qu'est-ce que ça montre? Là encore, qu'est-ce que ça montre sur Dieu, ces formules de bénédiction? Dans ce contexte-là, je suppose que c'est dans la semaine, tout le monde travaille. Et Dieu est présent, il n'est pas présent que le dimanche, pas chez eux, le jour du sabbat, c'était pas le dimanche, c'était le samedi ou un vendredi soir. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu finalement dans ce passage? Déjà, même si, oui, alors il est mentionné là, que l'Éternel te bénisse.
C'est Dieu qui donne la bénédiction.
C'est Dieu qui donne la bénédiction. Oui, effectivement, il donne la bénédiction. Dans quelles circonstances il la donne finalement?
Hein? La moisson.
Dans la moisson. Et finalement, eh bien, nous, on se retrouve le dimanche à l'église. Mais est-ce que dans la semaine, quand on va au travail, est-ce qu'on est conscient que Dieu est là? Si, dans le meilleur des cas, s'il y a un patron chrétien qui vous dit que Dieu vous bénisse, donc c'est pas juste le dimanche. Ça montre que Dieu, il est aussi présent. Dans quelles circonstances de la vie, toute simple, enfin
dans toutes les circonstances.
Dans toutes les circonstances.
Si et là, vie, on... là, un ou deux est mis en mouvement, je suis obligé. Ouais. Donc,
exactement. Oui.
Quand on travaille, si on travaille un jour, il y a un patron qui dit que Dieu vous bénisse. On est bien content d'entendre ça.
Voilà, on est bien content.
Et la foi, on sait qu'il est quand même avec nous.
Et quelles sont les circonstances précises là? Dans quelles circonstances de la vie sont-elles?
Là, c'est le labeur.
C'est le travail. Dieu est dans notre quotidien. Dans tout ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours quoi. Ça veut dire que il est aussi dans notre quotidien et il nous connaît personnellement. Bozaris maintenant. Qu'apprend-on sur lui? On le connaissait pas. Il rentre, il nous est présenté là. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire de lui?
Il veut savoir qui est cette jeune femme.
Alors, il veut savoir qui est cette jeune femme, effectivement. Ça veut dire qu'en fait, il a remarqué que c'est une nouvelle.
Ouais.
Bon, là encore, ça, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise ici, mais il est un bon exemple, boss, pour un chef d'entreprise.
Il sait reconnaître ses employés.
Il connaît ses employés. Il connaît ses employés, un par un. Il les connaît. Il a ses responsables, il y a les chefs des moissonneurs, hein, il va s'adresser à eux. Donc c'est un chef d'entreprise bienveillant, on a envie de travailler avec lui. C'est un comme chef, hein, c'est voilà. Et puis donc Ruth, c'est Dieu qui l'a guidé vers ce champ. Boaz, est-ce qu'il avait l'habitude d'aller tous les jours dans son champ? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il est arrivé ce jour-là bien précis où Ruth travaillait dans son champ. Alors, on peut, là encore, déduire que Dieu a guidé Boaz à venir à ce moment-là bien précis aussi, où était Ruth. Enfin, c'est là où Ruth commençait. Elle commençait le travail, hein, c'était le début. Hein. Et donc, il pose la question. Quelle est la question qu'il pose concernant Ruth? Boaz, quelle est la question qu'il pose précisément?
À qui est cette jeune femme?
À qui est cette jeune femme? Et vous avez remarqué, il ne demande pas qui est cette jeune femme.
À qui elle?
À qui elle? Là encore, on est dans la supposition, mais on peut supposer qu'il avait déjà des idées sur elle, qu'il l'avait remarqué, voilà. À qui? Est-ce qu'elle est mariée en fait? Est-ce qu'elle est la servante de quelqu'un? Est-ce qu'elle est qui est son propriétaire? Est-ce que
dans ces cas-là, elle était considérée comme une esclave?
Ça peut, oui, effectivement. Elle peut être considérée comme une esclave, oui, c'est ça. Et comme elle travaille dans son champ, c'est pas trop. Voilà, lui, il la connaissait pas en tant que telle, mais il pouvait poser cette question aussi.
À qui? Peut-être dans le village aussi, tout le monde se connaissait à Bethléem, mais ouais. Elle n'était pas du coin.
Oui, elle n'était pas du coin. Donc il l'a remarqué, oui. Et c'est vrai que, voilà, donc il pose cette question. Mais bon, là, la Bible ne le dit pas, hein, mais en tout cas, il pose la question. ne dis pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette question, mais à qui est cette jeune femme? Voilà, c'est...
Oh, peut-être là le souci de savoir qui sont les gens qui travaillent dans son champ aussi.
Voilà, aussi.
Qui est d'avoir des gens de bonne réputation, et de... Il ne veut pas que n'importe qui glane dans son champ, peut-être.
Voilà, aussi, oui. Aussi, c'est...
On voit savoir, ouais.
On voit le chef d'entreprise qui, voilà, qui est présent, quoi, dans son entreprise, ouais. Hein, et il est derrière les responsables, et... Ruth, on peut lui encore reconnaître deux qualités supplémentaires. Déjà, le surveillant, il a parlé d'elle en bien, donc il a remarqué sa bonne volonté. Elle a demandé la permission, Ruth, de travailler. D'après les dires du chef des moissonneurs, elle s'est pas mise comme ça, elle s'est pas incrustée à ramasser comme ça avec les autres. Non, elle s'est dévoilée, elle s'est pas cachée, Ruth. Elle a demandé la permission de travailler. Ça montre une certaine, déjà, humilité chez elle. Elle qui n'est qu'une étrangère. Elle a demandé la permission. Alors là, jusqu'à là, on voit comment Dieu a conduit les choses. Il y a déjà ce... Boaz et Ruth sont dans le champ de Boaz. Il a conduit l'un vers l'autre. Alors, c'est pour quelque chose. Alors on va lire la suite dans le verset 8 à 13.
Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec les servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. »
Voilà, merci. Alors, à première lecture, donc, en revenant donc à la providence de Dieu, dans quel domaine sa providence se manifeste ? Concernant Ruth, précisément. Donc on a parlé de la direction, la providence de Dieu dans la direction. Ici, comment est-ce qu'on pourrait définir la providence de Dieu dans ce passage-là? Dans quel domaine précis? Après la direction, qu'est-ce qui vous en semble?
Concernant que Ruth a pu glaner dans ce terrain, dans le terrain de Boaz, c'est lui qui maintenant qui lui donne un peu de quoi se nourrir.
Oui, alors ça c'est effectivement, c'est lui qui va, alors ça sera, on va le, tout à fait, hein, on va le garder pour tout à l'heure, ça c'est la provision, la providence dans la provision, dans ce que Dieu lui donne, et déjà là, alors Boaz il n'avait pas parlé directement à Ruth précédemment, il avait parlé à ses chefs qu'il avait établis, aux responsables, là, il parle directement à Ruth. Alors, quand le patron dit quelque chose, c'est rassurant. Parce que imaginez, parmi les employés, il y avait, si Boaz, il a demandé à ses serviteurs de ne pas la toucher, c'est que ça devait se pratiquer pour une femme. Et donc, il y avait ce risque-là. Qu'est-ce que finalement Boaz va apporter à Ruth? Enfin, et indirectement, qu'est-ce que Dieu va... La protection. La providence de Dieu dans la protection de ceux qui s'approchent de lui. Dieu va lui assurer la protection par l'intermédiaire de Boaz. Boaz qui a défendu à ses serviteurs de la toucher. Et donc il lui dit aussi, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Il lui dit de rester dans le champ. Son champ de Boaz, c'est vraiment le lieu de protection pour Ruth. c'est là où elle peut trouver, et elle va trouver la sécurité. Et ce qu'elle cherche, ce à quoi elle aspire tellement. Et Boaz va la rassurer. C'est vraiment l'aspiration de Ruth. Et Boaz, eh bien, déjà, il la rassure. Ne va pas glaner dans un autre champ. Alors, pour sa sécurité. Donc, on voit toute la providence protectrice de Dieu dans ce passage-là. Il lui permet d'aller boire l'eau que les autres ont puisée. C'est aussi un signe de bienveillance, de protection. Il veut pourvoir à ses besoins. Et finalement, le Dieu de grâce, eh bien, il a répondu à Ruth en lui envoyant Boaz. Et vous remarquerez donc au chapitre 10 et 13, Boaz, le mot grâce, il est souvent dans la bouche de Ruth. Déjà, quand elle a averti Naomi qu'elle irait glaner, au verset 2, hein, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui duquel je trouverai grâce. Et cette expression, elle est encore au verset 10. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Et au verset 13, oh que je trouve grâce à tes yeux. Ruth, elle savait ce que c'était que la grâce. Et c'était ce à quoi elle aspirait profondément. Et finalement, eh bien, Dieu a répondu en lui envoyant Boaz. Et quand on est touché par la grâce, quelle réaction on peut avoir? Quelle est la réaction de Ruth quand elle a compris ce que c'est que la grâce, hein? Et comment elle réagit devant ce passage-là? Comment est-ce qu'elle réagit?
Elle s'humilie.
Elle s'humilie. Quand on est touché par la grâce, la réaction normale, c'est de s'humilier. On met la grâce, on ne le mérite pas. On est juste l'objet de la grâce divine, des bienfaits de Dieu. Et la juste réaction, c'est de s'humilier, finalement, de se mettre à sa juste place. Et Ruth, elle va s'humilier deux fois, au verset 10 et au verset 13. Au verset 10, elle se prosterne. Et au verset 13, elle dit encore « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. » Alors Ruth, cette grâce qu'elle recherchait tant, elle est en train de la découvrir ici. Parce que finalement, elle ne mérite rien. D'abord, elle ne fait pas partie du peuple juif. Elle n'est qu'une étrangère. Et ô combien cette grâce, de faire l'objet de cette grâce, ça la rend humble, ça la rend reconnaissante. Et puis, imaginez Ruth en entendant son histoire, de la bouche de Boaz. Boaz lui parle personnellement, sans intermédiaire cette fois. Il ne passe pas par ses responsables, par ses chefs de corvée, hein. Il lui parle personnellement. Et en lui parlant personnellement, il lui raconte sa propre histoire, que les chefs moissonneurs lui ont racontée. Comment a dû se sentir Ruth après tous les efforts qu'elle a faits? Et Ruth lui dit, et Boaz lui dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Boaz, il a résumé tout son parcours là, depuis son départ. Comment Ruth a dû se sentir à ce moment-là?
Loin de chez elle.
Loin de chez elle, mais en même temps. Et quelqu'un qui est loin de chez lui, à quoi il aspire?
De retrouver une famille.
De retrouver une famille.
Et la considération.
La considération. Et il aspire aussi à être connu. À être connu, finalement. La considération. Et Boaz, elle qui n'est qu'une étrangère, elle a dû, en entendant les paroles de Boaz, être rassurée. Et ça m'a fait penser à ce verset, hein, 2 Corinthiens 6, 9. Nous sommes reconnus comme inconnus, quoique bien connus. Nous sommes reconnus comme inconnus, quoique bien connus. Voilà. Dieu nous connaît, chacun d'entre nous. Il connaissait Ruth, ce qu'il ne savait pas. Alors finalement, Ruth, eh bien, elle apprend que Dieu la connaît. Dieu sait tout, en entendant de la bouche de Boaz. Et comme Ruth, elle est restée fidèle à sa promesse, eh bien, Dieu a été fidèle envers elle aussi. Ruth est en train de récolter. À bientôt. Ruth est restée fidèle à sa promesse qu'elle a faite à Naomi. Et là, elle est en train de vivre quoi ? La fidélité de Dieu qui s'occupe d'elle. Ruth apprend à connaître Dieu. Elle a cherché refuge en Dieu, et le Seigneur prend soin et protège tous ceux qui cherchent leur refuge en lui. Comme une mère poule qui étend ses ailes. Et l'image, elle est là. Hein. L'image, elle est là dans ce qu'il lui pose. Voilà. Au verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. C'est une prière que fait Boaz à ce niveau-là. Et Boaz ne sait pas encore qui va être lui-même la réponse à sa prière. Il ne le sait pas. Comment Dieu va lui rendre ? Bien, par lui, par Boaz. La fin de l'histoire, on l'a. Pascal devrait. Enfin, il a les autres chapitres pour la suite. Mais voilà. La prière de Boaz, c'est lui-même qui va être l'accomplissement de sa propre prière. Il ne le sait pas encore. Et voilà, on a donc cette relation qui s'établit entre Boaz et Ruth. Ruth, elle confirme à Boaz sa bienveillance, qui il est finalement. Et Boaz aussi, ça a dû lui faire du baume au cœur en entendant Ruth parler de lui comme ça. Il l'a consolée, il a parlé à son cœur. Elle qui se dit moins qu'une servante. Est-ce qu'il y aurait de l'amour qui serait en train de naître entre les deux ? Pour quelqu'un de dire, tu m'as consolée. Tu m'as consolée. Tu as parlé à mon cœur. Donc il y a la naissance ici de ce qui va être leur amour. Donc on a vu la providence de Dieu dans la protection, la providence de Dieu dans la direction en premier, dans la protection en deuxième. Et puis bien sûr la providence de Dieu dans sa provision. Les mots commencent pareil, hein. Providence, provision. Comment Dieu va pourvoir ? Au verset 14 à 17, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu.
Vas-y. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, puis elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous qu'elle laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle battit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge.
Voilà, merci. Donc dans ce cas-là, on peut parler de la providence de Dieu dans sa provision, et même de, là encore, on peut parler de grâce. Hein. Alors voyons ça en détail. Comment est-ce qu'on voit la grâce de Dieu dans ce passage, justement, la grâce de Dieu, quelque chose qu'on ne mérite pas, qui s'applique à Ruth, hein, déjà.
Eh bien, Boaz. Lui dit de venir manger avec eux.
Il lui dit de venir manger à sa table. C'est le patron, Boaz, hein. Et il lui dit de s'approcher. Approche, mange ton pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Alors elle s'assit, oui. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Voilà. Donc, elle a déjà de quoi manger déjà pour ce jour.
Mais quand on voit ça, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est aime ton prochain comme toi-même ? Parce
oui.
que oui, c'était quand même un être humain.
Et donc, oui.
Si elle avait. Elle a beau être étranger, comme on dit dans le truc, étranger, mais elle reste quand même l'enfant du Seigneur. Elle restait quand même un être humain.
Oui, bien sûr. Mais à l'époque, est-ce qu'ils étaient considérés comme. Alors, il y avait quand même la loi de Dieu qui disait de prendre soin des étrangers aussi. de la veuve, de l'orphelin, et donc Israël devait connaître cette loi-là. Bien sûr. Mais elle, en tout cas, elle se considérait pas digne. Et elle ne connaissait pas tout ça. Elle découvrait la foi, elle découvrait ce Dieu d'Israël. Et en tant qu'étrangère arrivant dans un peuple où elle ne connaît personne, qu'est-ce qu'on voit ? Finalement, on voit son attitude de s'humilier, et on voit comment ça va payer en retour quelque part. C'est-à-dire qu'elle va être bénie, même au-delà de...
Mais vous, il savait bien, je suppose qu'il savait que si vous recevez le plus petit des enfants d'entre vous, c'est à moi que vous faites du bien.
Donc, oui, oui, moi c'était juif. Oui. Voilà.
Donc, oui, mais ça c'est marqué dans le Nouveau Testament.
Ah. Ouais.
Mais en tout cas, mais la question c'est en fait, oui c'est vrai que Boaz il a une attitude bienveillante envers elle, et on peut dire c'est Dieu qui est derrière, qui prend soin de Ruth. Il y avait la loi en Israël, la loi c'était, tu peux glaner, tu peux ramasser les restes en fait, hein, pour, voilà, ce que vont laisser tomber les moissonneurs. Mais est-ce que là, la grâce finalement, où va-t-on la grâce dans ce passage-là?
Au-delà de la loi.
Au-delà de la loi. Regardez l'attitude de Boaz. Boaz ne va pas se satisfaire de... Bon, tu ramasses juste ce à quoi tu as droit. Il a demandé à ses employés d'en laisser tomber un peu plus pour qu'elle puisse le ramasser. Donc Boaz, il est au-delà de la loi stricte, on va dire, en Israël. Et ça, c'est la grâce. Il pourvoit au-delà des besoins. Et c'est vrai que là... voilà, on pourrait se dire, bon, finalement, voilà, je fais ma part et puis c'est terminé. Non, Boaz, il va aller au-delà. Il va être généreux, Boaz. Déjà, il l'invite à sa table, ce qu'il n'était pas obligé de faire. Les étrangers pouvaient manger entre eux. Et venant du patron, c'est rassurant. Hein, et je ne sais pas si Ruth aurait osé elle-même s'asseoir avec les moissonneurs. Peut-être elle serait restée dans un coin, assise. Or là, elle est invitée par le maître. Et finalement, si on imagine un peu Ruth en tant qu'étrangère, ça a dû la toucher tout ça. Parce qu'elle ne méritait rien de tout ça en tant qu'étrangère, surtout voyant la générosité de Boaz. Et qu'est-ce qu'on voit finalement? Alors, d'ailleurs, on voit bien qu'elle est touchée. Elle fait un geste au verset 14 qui montre bien sa générosité. Elle a été touchée par la générosité et elle le manifeste au verset 14. Qu'est-ce qui manifeste sa générosité à Ruth cette fois? Et finalement, c'est que la grâce répond à la grâce. La grâce, on ne peut pas la contenir. La grâce va provoquer la grâce. Elle fait un petit geste là qui est lourd de signification. Au verset 14. Alors, c'est pas dit explicitement, mais elle fait quand même quelque chose. Elle a mangé d'abord, elle a bien mangé, hein. On lui donna du grain rôti. Qu'est-ce qui montre de la générosité chez Ruth, enfin, même si ce n'est pas dit explicitement, mais elle a ce geste qui prépare.
En fait, elle a gardé les restes.
Elle a gardé les restes. Elle pensait à qui, Ruth? À sa belle-mère. Elle allait rassasier. Elle a mangé du grain rôti, mais elle n'oublie pas sa belle-mère à qui elle a fait une promesse. Et finalement, eh bien, d'être l'objet de la grâce divine, par l'intermédiaire de Boaz, elle-même, elle va être généreuse. La générosité répond à la générosité. C'est contagieux. Et ce qui va au-delà de la loi, ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. Donc voilà, là on a la rencontre de deux personnes qu'on peut dire généreuses. La générosité de Boaz, qui répond à la générosité de Ruth, qui a gardé son repas pour sa belle-mère. Qu'est-ce qu'il va faire après ça? Il va demander à ses serviteurs de laisser tomber du grain pour que Ruth en ait plus. Et Dieu est en train de récompenser son dévouement là, par sa protection et par sa provision, et même au-delà de ses besoins. Et imaginez sa joie à la fin de la journée, hein. Elle a récolté un épha. Un épha d'orge, c'était à peu près 22 kilos.
— 22 kilos.
— 22 kilos, ouais, pour la journée. Alors, on voit donc comment Dieu a pourvu. Il a pourvu à sa direction, comment il l'a dirigé. Il a pourvu à sa protection. Il lui assure sa protection. Il a pourvu à sa provision, pourvoir à ses besoins de tous les jours, du travail, effectivement. Et il ne sait pas encore que Dieu va aussi pourvoir à son futur. Et là, le quatrième point, c'est la provision de Dieu pour le futur. Comment Dieu a pourvu là aussi pour son futur. Les versets 18 à 23, c'est la fin du chapitre. Si on veut. 18 à 23, je ne sais pas qui est-ce qu'il a.
Je pense que c'est moi. Okay. Ça va être...
Ça fait moi. Oui, c'est ça.
Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui ? Et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Noémi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Noémi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il vienne achever toute sa moisson. Et Noémi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servants et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servants de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère.
Merci. Où est-ce qu'on voit comment Dieu pourvoit au futur de Ruth dans ce passage, dans sa providence?
Elle peut travailler sans problème.
Elle peut travailler sans problème, et est-ce qu'il y a une notion de temps? Au verset 21. Ruth, elle peut travailler jusqu'à la fin de la moisson. Elle a du travail jusqu'à la fin.
CDD.
Du CDD, oui, un CDD qui va aboutir sur un CDI, sur. C'est pas pour ça. Oui. Et en tout cas, voilà Ruth. Imaginez Ruth, quand elle est partie le matin, courageuse, volontaire, allez, travail physique, elle a pas reculé devant, et là, elle a du travail, jusqu'à la fin de la moisson, pour elle, pour nous, se nourrir elle, pour sa belle-mère. Et là, elle est en train de vivre finalement tout ce que. Elle est en train de connaître ce Dieu-là qui prend soin d'elle. Et c'est pas fini, hein. Il faut aller jusque.
Mais quand le passage, oui. Cet homme est notre parent,
oui.
Lui dit encore Noémi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat.
Oui, alors le droit de rachat. C'est étonnant parce que là, Naomi, elle dit sur nous, c'est-à-dire sur elle, mais aussi sur Ruth qui n'est pas juive. Le droit de rachat, c'était la loi du Lévirat, où effectivement, lorsque un conjoint décédait, l'épouse devait épouser le frère du conjoint, s'il en avait. Hein, bien. Et donc, dans ce cas-là, ça permettait à l'épouse de ne pas se retrouver toute seule, sans ressources. Et là, le droit de rachat, c'était le proche parent qui devait épouser la veuve, finalement. Et là, qui est-ce qui a ce droit de rachat? Il s'agit de Boaz, parce qu'il est de la famille d'Elimelech. Hein. Et c'est important, ce droit de rachat. On va le voir par la suite. Et elle le dit bien sur nous. Elle dit bien sur nous, ça veut dire aussi bien sur elle qui est juive, Naomi, que sur Ruth qui est non-juive. Le droit de rachat, il est pour les deux. Alors, en tout cas, Naomi, regardons comment elle était au chapitre 1, et regardons comment elle est maintenant. sachant ce que Dieu a fait, Naomi, elle voit qu'il y a la main de Dieu derrière ce qui est arrivé à Ruth. Et regardez le contraste qu'il y a, le changement qu'il y a. Elle lui dit, et ça montre bien qu'elle a compris aussi, elle a compris une grande leçon, hein. Tous ces malheurs, tous ces déboires, ils ont eu un commencement, hein. C'était sur une terre étrangère. Et qu'est-ce qu'elle dit à Ruth au verset 8 ? Au verset, pardon, verset 22.
Alors, elle recevra donc les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson, des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurera avec sa belle-mère.
Attends, c'est le 22.
Ça, c'est 23.
Oui, 22. 22, si tu l'as.
Et Noémi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sors avec des servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. »
Est-ce que vous avez remarqué que Ruth, Naomi, a fait la même remarque sans le savoir, parce qu'elle n'avait pas encore rencontré Boaz. Elle fait la même remarque que Boaz au verset 8. Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste dans ton champ. Reste sur cette terre. Ne va pas voir ailleurs. Et peut-être que là, Naomi, elle se rappelle ce que ça lui a coûté d'aller voir dans un autre champ, là où l'herbe est plus verte. Quand ça n'allait pas, et qu'elle a quitté sa terre, Élimélec, il a quitté sa terre, son héritage, il est allé en pays étranger, et là, eh bien, Ruth, qui est une jeune convertie, elle a entendu de la bouche de Boaz, ne va pas glaner dans un autre champ. De la bouche de Naomi, ne va pas glaner dans un autre champ. Pour un jeune converti qui traverse des épreuves, on peut lui dire aussi, ne va pas dans un autre champ. Va pas voir ailleurs, t'as trouvé ici, à l'église, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, c'est là qu'est ta place. Elle a entendu deux fois. Hein. Alors, on voit bien ici, Ruth, elle a dû beaucoup apprendre dans cette journée sur la direction divine, la providence de Dieu, comment Dieu a conduit les événements. Il l'a conduit vers quelqu'un de bienveillant, vers Boaz. Il l'a conduite dans sa providence. Il lui assure la protection par le Boaz, c'est le patron de son affaire. Donc, Boaz lui assure sa protection, sa sécurité, ce à quoi elle aspirait tellement en tant que femme, une femme sans ressources, une femme sans homme. Ruth a dû comprendre aussi que Dieu lui assurait sa provision, de quoi manger, et pas seulement pour le présent, mais pour le futur. Que Dieu lui assurait providence pour l'avenir. Donc la providence de Dieu, elle est omniprésente, hein, dans ce passage-là. Et Boaz, en fait, c'est bien sûr que les noms ont une signification. Alors, Boaz, on dit qu'il est un type de Christ. Un type de Christ. C'est quelqu'un qui va nous faire... Alors, Christ est venu bien après Jésus, hein, puisque Jésus est de la généalogie de Boaz. Il est dans sa généalogie. Quelle similitude vous voyez dans l'attitude de Boaz et l'attitude de Jésus-Christ ? Alors, on peut tout dire dans l'ordre ou pas, mais quel point dans la personne et dans l'attitude de Boaz vous font-ils penser à Jésus-Christ ? Et dans la vie de Boaz, en quoi Boaz est-il un type de Christ, un type de Jésus-Christ ? Quelqu'un qui fait penser à Jésus ? Alors, il y a plusieurs points, il y a plein de points.
Il ne veut pas se détourner de... quand il est question de rachat, il sait qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui.
Alors ça, c'est pour après. Ça, c'est le chapitre d'accord. D'après. Donc effectivement, hein, Boaz, il va respecter la loi. Hein, et Christ a accompli la loi. Ce n'est pas dit dans ce passage-là, mais effectivement, c'est pour après.
Mais
dans ce chapitre 2, quel parallèle on peut voir entre... la vie de Boaz et la vie de Christ, entre le caractère de Boaz et le caractère de Christ, même si bien sûr Boaz n'était pas Christ. Il est un type de Christ qui nous prépare à Jésus-Christ.
Il est puissant.
Déjà, son nom, il est puissant et il est riche. On apprend qu'il est riche et puissant. Jésus, bien qu'effectivement, il est le plus riche puisqu'il est le Créateur, il est tout puissant, il est le Fils de Dieu. D'accord, ça c'est dans, tout à fait. Autre point qui nous fait penser à Jésus, géographique.
Il était à Bethléem.
Il était à Bethléem, et là où Jésus va naître, Jésus de sa descendance, il naîtra à Bethléem. Dans son attitude envers... alors déjà envers ses serviteurs...
Il est gentil.
Oui, on peut dire qu'il est gentil. Oui. Il est bon.
Il est bon, il est juste.
Et il est bienveillant. Oui, c'est ça. Il est d'entrée, on voit Boz, on voit le personnage. Que l'Éternel te bénisse. Il bénit ses serviteurs et il bénit les étrangers. Il remarque l'étrangère. Pardon, il remarque l'étrangère qui est travailleuse. Et il est bienveillant même envers les étrangers. Est-ce que Jésus est comme ça avec les étrangers?
Oui.
Mais bien sûr, nous étions tous des étrangers. Nous étions tous hors de son royaume avant qu'il nous y intègre. Quand on pense à la providence, voilà, dans le caractère de Boaz, en quoi manifeste-t-il le caractère de Christ? Quand on reprend la différence, quand on voit bien la providence divine dans... Comment est-ce qu'il va être avec Ruth, finalement, quand on reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure?
Il va être bienveillant.
Il va être bienveillant. Il va être aussi...
juste.
Oui. Protecteur. Ouais. Jésus nous protège. Mmh. Et il est... oui, aussi. Ne va pas glaner, ne va pas voir ailleurs. Ça, c'est effectivement, exactement, il veut l'exclusivité. Il nous veut pour lui, quoi. Et Boaz voulait Ruth pour lui.
Voilà.
Hein?
Pardon?
C'est un Dieu jaloux.
Dieu est un Dieu jaloux, ouais.
Je sais qu'il t'écoute, hein,
Oui, j'en vois bien, j'en vois bien. Et voilà. Et donc, il est protecteur. Autre chose aussi, dans ce que Boaz a fait avec Ruth, il lui a assuré quoi?
Son avenir.
Il a pourvu à ses besoins, à du travail. Eh bien, est-ce que finalement, l'expérience de Ruth avec Boaz devrait être aussi la nôtre à chacun d'entre nous, avec le Seigneur Jésus? Jésus qui est compatissant envers l'étranger, les étrangers que nous étions tous, envers l'étranger qui s'attache à lui, en sachant qu'il ne mérite rien. Ruth, elle savait qu'elle ne méritait rien. Et pour elle, c'était une étrangère au peuple de Naomi. Et finalement, bien, Boaz l'a intégrée dans son peuple. Et le Seigneur Jésus fait de même avec nous. Nous ne méritons rien. Il nous intègre dans son peuple. Et son peuple, c'est qui? C'est l'Église. C'est... Dans son attitude envers Ruth, vous avez remarqué qu'il nous fait penser à Jésus aussi. Quelque chose qui nous est personnel, je veux dire. Comment Boaz s'y prend-il avec Ruth? C'est le patron. Il a parlé à qui?
Il a dit ma fille. Il a appelé Ruth sa fille.
Il a appelé Ruth sa fille. Ça veut dire qu'il lui a parlé personnellement. Il a pris soin d'aller voir Ruth personnellement. Il a parlé d'abord à ses responsables qu'il a établi, et il a parlé à Ruth aussi. Et comment est-ce que Jésus fait avec nous? Il nous parle.
Apparemment.
Il nous parle personnellement aussi. Ah, oui. Alors bien sûr qu'il peut...
Il est bienveillant. Oui.
Jésus nous parle, c'est-à-dire qu'on peut avoir une relation personnelle avec lui. Boaz, il avait parlé personnellement à Ruth. Et Jésus, le Seigneur, veut aussi nous parler personnellement. Alors bien sûr qu'il peut nous parler par l'intermédiaire de ses serviteurs. Boaz avait des serviteurs. Et aujourd'hui, les serviteurs de l'Église, c'est les pasteurs, les anciens, les responsables. Bien sûr que Dieu veut nous parler par les responsables, les pasteurs, les anciens. Et il peut aussi nous parler personnellement. Et il veut nous parler personnellement, avoir cette relation personnelle avec nous. Alors, il y a une expression qui est au verset 13, qui est bien ce que Jésus a fait avec nous. Hein, au verset 13. Et là, c'est...
Car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes.
Est-ce que Jésus ne fait pas la même chose avec nous? Il a consolé. Il a parlé à son cœur, Boaz. Et Jésus aussi. Il est le consolateur. L'Esprit Saint est appelé le consolateur. Il parle à notre cœur. On sait hein, quand Dieu nous parle. On le sait personnellement. Est-ce que Jésus nous assure sa protection?
Oui.
Voilà. Est-ce que j'ai distribué Jean 10, verset 28? C'est une promesse hein, de Jésus.
Je leur donnerai la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main.
Au futur, promesse. Mmh. Promesse de Jésus qui tient toujours ses promesses. Promesse de sa protection. Aussi, Boaz savait tout de Ruth avant même qu'elle le connaisse, avant même qu'il fasse sa connaissance aussi. Au verset 11. Hein.
Il connaissait son passé, ses actes,
jusqu'à son présent, et même son. Est-ce qu'il connaissait son futur? En tout cas, il allait être partie prenante dans son futur, il allait être très impliqué dans son futur. Et le Seigneur Jésus avec nous, il connaît tout de nous, il connaît tout ce par quoi nous sommes passés.
Il connaît même l'avenir.
Il connaît notre avenir aussi. Non seulement il veut pourvoir à notre protection, mais il sait ce par quoi on va passer. Bonne raison de lui faire confiance. Alors il y a Jean 1 verset 48 qui est aussi un beau verset je trouve de ce que Jésus nous connaît chacun comme il connaissait justement un des douze.
Vous me connaissez-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, il t'a vu.
Amen. Jésus connaissait Nathanaël. Avant même qu'il fasse sa connaissance, il nous connaît aussi. Boaz invite Ruth à s'approcher. Et c'est vrai qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Dieu nous a appelés. Et Boaz invite Ruth à manger avec elle. Eh bien, Christ aussi, il invite chacun à s'approcher de lui. Il invite chacun à s'approcher de lui. Hébreux 7, verset 25. J'ai dû le distribuer.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
Amen. S'approcher de Dieu, c'est ce que Dieu veut, et on peut le faire grâce à Jésus, qui peut nous sauver parfaitement, pas à moitié. Qu'est-ce qu'il y a dans le repas? Qu'est-ce qu'il y avait dans le repas que Boaz a partagé avec Ruth?
Du pain.
Oui.
Du vinaigre.
Oui. Et aussi
Du
grain rôti. Jésus aussi nous invite à sa table. C'est ce qu'on a fait ce matin par la Sainte Cène. Quand nous nous approchons de lui. Et alors, dans la Sainte Cène, il n'y a pas de grain rôti. Le pain et le vinaigre nous rappellent effectivement la Sainte Cène. Le grain rôti, ça, en tout cas, bon, ça peut faire penser à quoi, à votre avis, dans ce qui concerne Jésus? Le grain rôti.
L'agneau.
De l'agneau, oui, l'agneau. Et rôti, ben.
La
souffrance, l'agneau pascal. Ouais. Ce qu'il a enduré pour nous. Et quand nous prenons la scène, le pain et le vin, eh bien nous nous rappelons ce que Jésus a fait. Jésus nous invite à sa table, nous rappelant ce qu'il a fait pour nous. Voilà. Matthieu 26 à 28, j'ai dû le distribuer aussi.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
Amen. Et puis, Boaz a mis de l'eau à disposition de Ruth. Il lui a donné la permission d'aller puiser ce que ses serviteurs avaient pris. Hein. Quel verset c'était ? Oui, c'est quand tu auras soif, c'est verset 9. Et quand tu auras soif, tu auras au vase, tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Jésus, il est lui-même celui qui étanche notre soif pour toujours. Il a dit en Jean 7, verset 37, je l'ai peut-être distribué.
Oui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Voilà. Il est lui-même notre eau qui nous étanche, nous avons soif, notre âme a soif, et nous avons soif du Dieu vivant.
Jean 7, 37.
7, 37. Et puis, bien sûr, eh bien, dans l'attitude de Boz, ça nous fait penser à Jésus. Boz, on peut dire, il a servi Ruth. Il l'a servi avec bienveillance. Et il va aller au-delà de ses besoins. Il va répondre à ses besoins et il va mettre, ça s'appelle la grâce, il va la combler. Et c'est ce que Jésus fait avec nous dans sa grâce et sa miséricorde. Il nous accorde sécurité et prospérité pour le présent et pour l'avenir. 2 Corinthiens 9, verset 8, je trouve que ça reprend bien cette idée. 2 Corinthiens 9, verset 8.
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre.
Amen. Et là, eh bien, en l'occurrence pour Ruth, la bonne œuvre, c'était de pourvoir aux besoins de sa belle-mère. Elle était rassasiée, Dieu l'a rassasiée par l'intermédiaire de Boaz, elle a mangé à sa faim. Et elle avait de reste pour aussi en apporter à sa belle-mère. Et c'est comme ça que Dieu a fait avec nous. Quand Dieu nous bénit, c'est parfois au-delà de toute mesure. C'est pour que nous soyons nous-mêmes en bénédiction aux autres, dans tout ce qu'il nous donne. Et puis enfin, eh bien, Boaz a droit de rachat. Il a le droit de racheter. Il a un droit de rachat sur une juive, Naomi, et sur une non-juive, Ruth. Et par cela, eh bien, en quoi est-ce qu'il nous fait penser à Christ ?
Eh bien, c'est pour ça qu'on est rentré. Non,
il a racheté les juifs et les non-juifs.
Oui. Alors, il a quoi, tu dis ? Il a racheté. Il a racheté. Effectivement, il a racheté par son sang. Voilà. Et c'est en Apocalypse 5, verset 9. Justement, c'est aussi clair. Hein, c'est ce rachat.
Apocalypse
5, verset 9.
Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. » Je reprends. « Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. »
Voilà ce que Jésus a fait. Il a racheté pour Dieu. Il nous a racheté pour Dieu. Par son sang, et bien des hommes de toute tribu, pas seulement des juifs, mais des non-juifs. Et là, le droit de rachat, et bien Boaz l'avait à la fois sur une juive, enfin, sur Naomi, et aussi sur une non-juive, sur Ruth. Et ce droit de rachat, et bien Ruth, c'est là que Ruth était les prémices de la conversion des païens.
Parce que Naomi, elle a dit... Boaz était un parent.
Oui.
Pourquoi il était un parent ?
Alors il est de sa famille, et donc c'est le droit de rachat. C'était pas ce bon. S'il n'y avait pas de proches parents, ça devait être un parent éloigné. Et c'est là où la suite de l'histoire aussi va nous éclairer, parce que Boaz va dire qu'il y en a un
qui est plus proche, qui a plus de droits que lui.
Et Boaz, il va respecter la loi. Il va pas chercher à, même si Ruth l'intéresse, hein, il va pas chercher à tourner les choses à son avantage. Il est prêt à perdre. Et c'était en fait celui qui avait un parent. Donc ça pouvait être si le défunt n'avait pas de frère, ben ça serait le parent le plus proche. Voilà, c'est ça. Alors, On sait que Boaz était plus âgé que Ruth. Hein. Il était plus âgé. Et pourtant...
Oui, parce qu'ils disent, tu t'es pas... t'as pas été vers des jeunes hommes.
Voilà, à la fin. Hein. Ouais. Et voilà, donc c'est là où finalement, là, cette loi, ça pouvait amener à quelqu'un qui pouvait être bien plus âgé que la veuve. Hein, que... Et... Alors oui, Boaz est un type de Christ dans tout. Et quand on, c'est vrai, quand on se planche sur ce récit, on voit bien tout ce qui nous fait penser à Jésus-Christ. Il n'était qu'un type, il n'était bien sûr pas parfait. C'était en préparer la venue de celui qui serait même dans sa descendance même, Jésus-Christ. Voilà. On peut terminer là, à moins que quelqu'un veut rajouter quelque chose pour.
Je veux souligner un autre type de Christ. On voit un Boaz, c'est qu'il est humble. Il se met à table avec ses serviteurs.
Ça aussi.
Il mange avec toute sa table.
Oui.
Alors que bon, dans la culture juive, les femmes à table avec des hommes, voilà. Ou même des chefs avec leurs serviteurs, c'était ça courait.
Oui, je pense que c'est. Oui.
Donc c'est un type humble, humble comme.
Voilà, et il était proche de. Et c'est vrai, quand, oui, tout à fait, hein, de ses, proche de ses serviteurs. Et voilà, il mangeait avec eux. Oui, ça aussi, merci. Merci de le rajouter. Ouais. Il se mettait pas sur un piédestal de. Ouais, il était proche de ses serviteurs. Et comme il est proche de nous, Jésus est proche de nous.
Quand il dit à ses employés d'enlever des habits pour les laisser volontairement. Il a pris de ce qui était à lui pour le donner à Ruth, parce que normalement, comme tu disais, c'est la loi, ça suffisait qu'à ramasser ce qui restait. Mais il a pris vraiment de ce qui était à lui pour aller.
Ouais.
Il s'est dépouillé lui-même de la parole.
Ouais. Ouais. Ouais.
Il a dit, le Saint-Esprit vous annoncera ce qui est à moi, et vous le prendra et vous le donnera.
Ouais.
Je ne sais pas si ça correspond.
Qu'est-ce que tu penses? Oui, ça, oui. Je pense que ça correspond, bien sûr. Oui. Oui, il a, ça montre bien sa générosité. Hein. Il a donné de son propre bien. Et finalement, on peut dire, finalement, qu'est-ce que c'est qui motivait Boaz pour agir comme ça?
Eh ben,
son amour. Il aimait Ruth. Et bien sûr que Jésus, qu'est-ce que c'est qui l'a motivé? On connaît tous Jean 3,16, hein. C'est son amour pour nous, par amour pour nous qu'il a donné sa vie.
En plus, Boaz, sa mère a une histoire qui ressemble à celle de Ruth, parce que sa mère c'est Rahab, la prostituée de Jéricho.
Oui, ça, dans la généalogie, tu
dis. Dans la généalogie, oui. Matthieu 25, dans la généalogie, hein, que Boaz, c'est le fils de Salmon et de Rahab. Et Rahab aussi, on sait qu'elle a quitté son peuple pour rallier le peuple de Dieu. Et elle a dû grandir enseignant à son fils d'aimer l'étranger, de comme elle a été acceptée, aimée par le peuple juif. Peut-être là aussi, elle a dû apprendre des choses.
Boaz a dû voir, parce que sachant, Rahab était une prostituée.
Oui. Ouais.
Et alors on peut supposer, oui, que ça a dû influencer sur sa vie. Il a dû être pour manifester la grâce. Il faut avoir soi-même l'objet de la grâce. Et Boaz a dû aussi pour être Boaz, finalement, c'est que lui-même a dû goûter à ça. Il a dû être l'objet de la grâce, de bénédiction. Et finalement, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous-mêmes on peut la manifester. À d'autres. En fait, pour donner, il faut recevoir. Et je suis toujours étonné qu'une non-juive qui ne connaissait pas la loi de Dieu, Ruth, et un cœur comme ça, un cœur déterminé à prendre soin de Naomi.
Peut-être qu'elle n'avait plus de parents, peut-être que. Voilà, on n'en sait rien. Hein.
Oui.
Orpa avait peut-être des parents que Ruth n'en avait pas.
Et parfois, c'est à la fois beau de voir la fraîcheur d'une jeune convertie face à quelqu'un qui a... Naomi, bon, elle a grandi dans le peuple de Dieu. Elle a été, bien sûr, elle a été très éprouvée, finalement. Oui, et on le voit dans ce texte-là, au chapitre 2, finalement. Regardez la différence entre, chez Naomi, entre comment elle était au début et comment elle considérait Dieu au début. Et qu'est-ce qu'elle dit, justement? Qu'est-ce qu'elle dit à la fin de ce passage-là sur l'Éternel? Preuve qu'elle voit plus les choses de la même façon. Et que finalement, eh bien, par l'intermédiaire d'une non-juive, elle reprend espoir. Parce qu'elle voit comment... à la fin du chapitre, il y a...
Il se montre miséricordieux. Il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il est... comme il le fait aussi pour ceux qui sont morts. Elle reconnaît la miséricorde.
Elle reconnaît la miséricorde. Oui.
Ouais. Il est bon. Enfin, il est miséricordieux.
Dieu miséricordieux, voilà. C'est ça. Exactement.
Ouais. Il n'est pas punitif.
Oui, et du coup, eh bien, son... Si pour Ruth c'est un aller vers Dieu, pour Naomi c'est un retour à Dieu. Dans son cœur, on voit bien comment son amertume se dissipe, hein, progressivement. Voilà, ouais. Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants. Pour les vivants, elle se met dedans. Elle commence à voir qu'il est miséricordieux pour elle aussi. Et donc, du coup, derrière tous les événements, Naomi, eh bien, elle commence à voir, elle a vu que Dieu était derrière.
Et donc, quand tu parles de cette provision dans la direction, dans ce que Dieu planifie, dans le livre, on a un clin d'œil de cette provision, mais quand on prend un peu d'auteur, qu'on voit plus l'âge, tu vois que Boaz vient de Rav, elle qui était prostituée, était dans un peuple qui était voué à être détruit, mais parce qu'elle a gardé les espions, elle était épargnée.
Oui, Josué, aussi sous Josué, ça.
Oui, sous Josué, oui. Donc, Boaz, même qui est là, qui va faire vie dans le plan de Dieu pour Ruth, lui aussi, il vient d'une autre histoire où Dieu encore était au contrôle.
Oui.
Dans la provision de Dieu, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, en fait.
Oui.
On n'a que des pièces de puzzle qu'on a, au fur et à mesure qu'on lit la Bible et qu'on se rend compte. Mais non, quand on prend du recul, on se rend compte que c'est juste immense.
Ah oui, merci. Et nous, on a la Bible. Eux, ils ne l'avaient pas, comme on l'a aujourd'hui.
Ils l'avaient pas, non.
Et ils avaient les rouleaux de Moïse. Ils avaient... Et c'est vrai que de voir la Bible comme un tout, c'est aussi un trésor qu'on a. Hein. Et c'est vrai que, effectivement, on voit comment les pièces du puzzle se rejoignent. Très bien, s'il y a à moins qu'il y ait d'autres interventions, sinon on peut terminer là, peut-être par quelques-uns, si quelques-uns veulent prier. Et...